Voilà, la nuit blanche continue sur France Culture. Nous sommes toujours, donc, je le répète, quai de la Mégisserie, au bord de la Seine. On va pas tarder à passer les parades et des choses étranges. Et c'est le moment mauvais genre qui va durer donc de 22h à 23h. Alors, de quoi va-t-on parler dans ce moment mauvais genre en lien avec la nuit blanche? La nuit blanche, c'est un petit peu le symbole du mauvais genre, puisque les nuiteux, les gens qui sont insomniaques, les gens qui vivent la nuit, et puis les romans qui vous empêchent de dormir sont un petit peu le pain quotidien de l'émission. On va parler bien sûr de tout cela. Et puis surtout, on va parler des ponts, puisque la Seine est évidemment la vedette de cette année. Mais les ponts sont évidemment à l'honneur. Et tu sais que l'univers des genres, eh bien, est truffé de ponts, que ce soit les ponts en bois que franchissent les diligences, les passerelles en acier, que ce soit les viaducs, que ce soit les ponts de singes, tous les ponts possibles pour les dynamiter, pour les passer en courant, pour les passer en évitant qu'ils s'effondrent, sont le pain quotidien des mauvais genres. Et plusieurs ponts, eh bien, seront investigués, seront analysés durant cette émission. Mais avant cela, on va s'entretenir. Bonsoir Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Avec un des acteurs tout à fait étonnant de cette nuit blanche. Enfin, c'est pas de la nuit blanche, c'est juste avant, c'est les jours qui précèdent. C'est vous, Abraham Poincheval. Abraham Poincheval, on l'a déjà découvert à mauvais genre avec vous, Céline Duchesnay, dans un moment, une feuille, un passage de notre encyclopédie pratique. Il est avec nous, je suis ravi, c'est rare que je vois un de vos invités. Alors Abraham Poincheval, donc vous êtes descendu à 19h du poste d'observation de la vigie que vous occupiez depuis combien de temps à peu près?
Depuis une semaine, gare de Lyon, voilà.
Une semaine gare de Lyon. Alors, j'ai vu que, je viens d'employer le mot vigie, qui fait penser à l'univers de la navigation, qui fait penser à la mer, à l'horizon marin, mais il y a aussi le mot stylite. Alors stylite, ça m'intéresse, on parlait de Bossuet tout à l'heure, puisque à l'origine, les stylites, ce sont ces ascètes, ces mystiques des origines du christianisme qui avaient comme ermitage choisi la crête, le sommet d'une colonne. Et ils vivaient là-haut, en offrant un petit peu leur... en prière, en extase. Qu'est-ce que vous faites de ce mot stylite? Quelle est un petit peu la nature de votre inspiration?
Moi j'étais toujours très sensible à l'histoire des ermites et du stylite en plus. En fait, moi je trouve ça assez extraordinaire, cette façon de se positionner à un endroit comme ça, entre ciel et terre en fait. Pas tout à fait dans les cieux et pas non plus sur la terre. Un entre-deux en fait qui permet de regarder le monde et d'essayer de le réagencer, de le comprendre différemment. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait à cet endroit aussi, qui est un endroit de flux, et parce que aussi les stylites aussi se plaçaient finalement, étaient des endroits de flux à leur époque, c'est-à-dire qu'en fait les caravanes convergeaient du monde entier pour pouvoir aller voir ce saint, discuter avec lui, et du coup des échanges autant sur la politique, sur l'histoire des différents endroits se faisaient. Donc du coup, on était au courant les uns des autres de l'univers en fait, du monde en fait tel qu'il allait.
Alors on visitait les stylites.
Oui.
C'est-à-dire qu'on allait les voir comme de saints ermites pour leur poser des questions. Et je vois sur le programme donc de cette nuit blanche qui a marqué « Visible tous les jours à partir du 26 septembre ». Est-ce que des gens sont venus vous voir, sont venus vous regarder, sont venus essayer de vous parler?
Exactement. En fait, les gens sont venus jour et nuit me parler. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. C'est-à-dire que voilà, en fait, c'était continu. En fait, c'est-à-dire que je place mon temps, en fait... pour les autres en fait à ce moment-là. Donc du coup en fait c'est 24h/24, ce qui n'empêche que je dors de temps en temps, mais puis on me réveille et puis voilà. Alors là la différence c'est comme je suis placé quand même, enfin j'étais placé à 20 mètres de haut, donc du coup la discussion est complexe.
Oui.
Mais du coup c'est plutôt une discussion par les gestes, les mouvements, et c'est surtout aussi une façon d'observer en fait ce monde de la gare qui est absolument incroyable. Voilà.
Alors Céline Duchesnay, on connaissait Abraham Poincheval dans un monde utérin, à l'intérieur d'un ours, à l'intérieur d'une grotte. Et là, brusquement, il sort un petit peu, non pas du ventre de la terre, mais du ventre de l'ours ou de la grotte, pour aller se réfugier dans une atmosphère aérienne, donc nouvelle perspective, nouvel univers.
Je crois que Abraham Poincheval a toujours aimé finalement les espaces confinés, mais aussi les espaces larges, vastes, parce que si on essaye de faire un petit peu votre biographie à l'aide de quelques performances, on va s'apercevoir qu'au fil et à mesure des performances, vous avez pu être aussi bien confiné dans une bouteille géante, que donc dans un trou d'1m70 sous terre, sous une pierre d'une tonne, que vous avez déjà passé plusieurs séjours aussi sur des mâts, mais à chaque fois un petit peu plus haut. De 6 mètres en 6 mètres, vous grimpiez un petit peu plus haut vers le ciel. Et alors moi, la question que je me posais, c'est finalement le point en commun entre toutes ces performances, qu'elles soient dans l'espace ou alors dans des endroits très confinés, c'est évidemment la contrainte du corps. Et à partir de quel moment y a-t-il une forme de liberté dans la contrainte du corps ? Est-ce qu'il faut attendre quelques jours pour ouvrir des espaces inconnus, je dirais même au niveau de l'esprit ?
Oui, en fait, par exemple, là ici, il a fallu à peu près 3 jours pour réellement tout à coup se connecter au projet. En fait, à chaque fois, il y a un petit temps en fait, d'assaise, de mise en place pour réussir à rentrer véritablement dans le projet et à se libérer. En fait. Oui, on peut parler d'une libération. Ouais.
Et alors, l'autre chose aussi que vous m'aviez confié quand vous étiez sorti de l'ours, donc ça c'était en 2014, vous aviez beaucoup rêvé de l'ours, donc on peut rappeler que cette performance, c'est que vous étiez donc dans la peau d'un ours naturalisé. Vous aviez beaucoup rêvé de l'ours avant d'entrer dans l'ours, mais une fois dans l'ours, les rêves avaient à peu près disparu. Et ce qui m'avait, moi, vraiment frappé, c'est que j'avais eu le sentiment, à vous écouter parler, que vous étiez dans un autre temps où finalement il n'y a plus vraiment de rêve, où la nuit vous ne rêviez pas, enfin la nuit, parce qu'il y avait même une histoire de jour, où nuit vous ne rêviez pas, le jour vous ne rêviez pas non plus, mais vous étiez comme dans une espèce d'apesanteur qui faisait que votre esprit pouvait divaguer, vous pouviez quitter la peau de l'ours, vous pouviez voyager dans l'espace, vous pouviez voyager comme ça dans les jardins, dans la ville, et puis tout à coup vous aviez eu cette formule, une main vous tapait sur l'épaule et vous disait rentre dans la peau de l'ours. Alors là, même chose, est-ce que vous avez eu des formes de rêverie ou d'évasion?
Oui, ben, en fait c'est aussi un endroit de la rêverie, en fait c'est un endroit où se connectent différentes visions du monde intérieur ou extérieur, et c'est là aussi que ça m'intéresse aussi, cette espèce de, comment dire, de frontière, ou cette porosité plutôt, parce que plus que frontière, cette porosité entre des univers très différents en fait qui se connectent, qui sont les miens mais aussi qui sont ceux aussi des gens qui habitent là, parce que là on est en espace public, enfin c'est la gare de Lyon, donc du coup, et c'est aussi les univers d'autres personnes aussi qui rentrent comme ça en connexion, et c'est ce qui m'intéressait voilà.
Alors justement, Abraham Poincheval, à l'intérieur du ventre d'un ours, on sort du temps, dans un trou, on peut sortir du temps, on est dans un monde, je répète, utérin, qui permet de s'extraire un peu de la durée, du continuum des jours et tout, mais quand on est à la crête d'un mât à côté de la gare de Lyon, au contraire, on est assailli par le temps. D'abord, le temps météorologique, le temps qu'il fait. J'imagine s'il avait fait un orage terrible, une canicule atroce ou une pluie incessante, vous l'auriez subi. Oui. Vous avez été l'homme des heures. Vous avez vu la nuit tomber, le jour se lever.
Il y a l'horloge aussi qui arrive.
Et l'horloge qui est devenue une amie, oui. J'imagine, à côté de vous. Et puis, vous voyez le flux des voitures. Vous voyez les gens rentrer dans la gare, sortir de la gare. Vous étiez au cœur de la durée. C'est une expérience du temps. Alors, il y a toute une dimension ascétique et mystique, mais fondamentalement, vous étiez baigné dans le temps.
Exactement, mais c'est ce qui m'intéressait justement d'être dans cette place. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un endroit du flux, du temps, en fait, et du temps qui s'écoule. Et en même temps, c'est là que j'étais assez sidéré. En même temps, bon, j'ai pas encore assez là, parce que je viens juste de sortir. C'est qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des temps très différents, en fait, entre les petits malfrats, les gens qui
les
sont...
Les petits malfrats, c'est-à-dire vous voyez du haut...
Vous
assistiez à des délits.
C'est assez incroyable. Mais tout ça se passe dans une
sorte de
cordialité. Voilà, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que je me suis dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, c'est une sorte d'équilibre qui se fait. Parce que autant vous avez les directeurs d'agence qui rentrent avec... Et puis en même temps, ces petites personnes qui sont là, hop, et toutes les choses circulent comme ça, d'une main à main. Et c'est absolument génial. Et je me suis dit, mais c'est... Enfin, pour moi, c'est un cadeau qui m'a été offert de pouvoir être à cet endroit-là. Et c'était une expérience très intéressante et très enrichissante.
Céline Duchesnay.
Est-ce qu'il y a aussi de l'ordre de l'expérience donc mystique, le mot, enfin François, vous l'avez évoqué, mais spirituel? Parce que ça me fait penser quand même à une posture aussi méditative.
Ben, on est obligé, de toute façon, si on veut pouvoir rester pendant une semaine sur une petite parcelle de 90 cm sur 1m60, il y a une obligation quand même d'une pratique, enfin d'assaise, entre guillemets.
Et est-ce qu'on pourrait parler aussi de chamanisme? Parce que je me souviens que c'était le mot que vous aviez évoqué quand vous étiez dans la peau de l'ours.
Ouais,
de passeur entre deux mondes.
Oui, en fait, voilà, de passeur. Oui, chamanisme, ça me semble aller un peu loin. Je pense que je n'ai pas les compétences requises, mais au moins de passeur, ouais, ça pourrait passer.
Et alors, si on veut évoquer ce terme de passeur, je me rappelle aussi une anecdote que vous aviez racontée qui est liée à votre enfance et qui était justement votre lien au mauvais genre. Et votre lien au mauvais genre, c'est que petit, vous avez grandi dans une forêt près d'une rivière, 5-6 maisons, des gens, vous m'aviez dit qu'il y avait des malfrats, des gens qui venaient d'hôpitaux psychiatriques, des gens qui venaient à peu près de partout, et que très vite, vous avez appris à... Enfin, vous avez grandi finalement dans la marge, et que peut-être ce goût de la marge vous a aidé aussi à ouvrir des portes, franchir des frontières, aller vers d'autres univers.
Sans doute, oui, parce que c'était, voilà, c'est un espace où tout est ouvert, donc du coup, on apprend que toutes les pensées sont envisageables et possibles, et du coup, ce sont des choses à réfléchir intéressantes.
Et vous avez vu la Seine, vous avez vu de là où vous étiez, vous voyez la Seine et ses ponts, est-ce que...
Ouais, en fait, oui, c'était assez... En fait, je la voyais pas, mais j'en sentais le vent de l'eau, voilà. Ça, c'était très agréable.
Est-ce qu'on peut vous demander la prochaine aventure que vous allez vivre après le ventre de l'ours et la crête du mât du stylite? Est-ce qu'il y a une nouvelle aventure pour Abraham.cheval?
Il y a plusieurs choses en cours pour l'instant qui sont encore en discussion. Une qui est en fait de vivre dans un rocher, en fait, voilà, enfermé dans un rocher.
Et une enfermé autre... dans un rocher,
ouais, voilà,
pris dans la, comme un insecte dans la résine.
Exactement, voilà, exactement ça. Pas encore fossilisé.
Bah, je vous le souhaite, oui.
Et un autre qui serait de couver des œufs moi-même, voilà.
Très bien, bah écoutez, on reste attentif à vos futurs projets, futurs accomplissements à Abraham.cheval. En tout cas, vous deux, merci d'avoir été à Mauvais Genre dans le cadre de cette 15e nuit blanche parisienne et de ces programmes spéciaux de France Culture. Merci à Céline Duchesnay, qu'on retrouvera bientôt pour d'autres aventures.
Mais bien sûr.
Tout aussi très Mauvais Genre. Et puis, bah écoutez, maintenant, nous allons franchir le pont et nous intéresser au pont du Mauvais Genre. Mauvais Genre en bord de Seine hein, ce samedi dans le cadre du programme spécial de France Culture à l'occasion de la 15e nuit blanche parisienne. Et après donc cet entretien avec Abraham.cheval, le stylite de la gare de Lyon, descendu de son observatoire, expérience tout à fait extraordinaire et singulière, et bien on va maintenant s'intéresser à ce qui est une des grandes thématiques de cette nuit blanche parisienne, les ponts. Alors évidemment, les ponts de la Seine, tels ils vont être parcourus, tels que le public extrêmement abondant stationne dessus. D'ailleurs, on voit, on peut saluer comme ça de loin, le public sur le pont au Change et puis sûrement sur le pont Neuf dans Mondo. Mais nous, on va s'intéresser au pont du Mauvais Genre. Et le premier pont de la culture de genre qu'on a décidé de franchir ce soir avec vous, Philippe Rouillet, bonsoir.
Bonsoir.
Fausto Fazulo est à côté de vous, bonsoir Fausto.
Bonsoir François.
Alors avec vous, on verra d'autres ponts. Mais on va commencer par le premier pont, un des plus célèbres de l'histoire du cinéma fantastique. C'est le pont du Nosferatu de Murnau. Parce qu'en effet, alors, effectivement, de quel pont s'agit-il? C'est, le film n'est pas avant tout connu pour un pont, mais connu, c'est un film de 22, c'est un film muet. Et comme dans tous les films muets, il y a des cartons. Il y a un carton, voilà, du Nosferatu de Murnau, qui est devenu légendaire, un peu à cause des surréalistes d'ailleurs, et qui parle de pont, Philippe.
Oui, et ce carton, quand je vais vous le citer, ça va tout de suite faire sens et mémoire pour vous, c'est quand il eut dépassé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Voilà. Alors, ce carton, en fait, il est dû à un obscur traducteur, parce que le texte allemand ne comprend pas ça du tout. Mais il y a un traducteur français qui, au moment de la sortie, a trouvé cette formule ultra poétique, il l'a mise. Et André Breton, les surréalistes s'en sont inspirés, et la formule a grossi. Et je suis sûr que vous l'avez tous déjà entendu, sans savoir forcément que ça venait de là, du Nosferatu de 1922. Alors, si vous, aujourd'hui, si vous voyez le film dans la version officielle, vous avez un qui a été restauré il y a quelques années par le fonds Friedrich Murnau, donc le réalisateur du film. Vous avez maintenant un carton qui est beaucoup moins flamboyant. C'est « Décuter eut franchi le pont, ses craintes qu'il m'avait confiées ne tardèrent pas à se matérialiser. »
C'est beaucoup moins poétique.
Alors, c'est beaucoup moins poétique, ça le fait beaucoup moins. Mais en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un moment du film extraordinairement excitant, puisque c'est le moment où Uther... Vous savez que Nosferatu, c'est l'histoire de Dracula. Ça s'appelle Nosferatu parce qu'ils n'ont pas acheté les droits de Dracula. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter les droits du livre de Bram Stoker, qui à l'époque n'était pas dans le domaine public. Ils se sont dit, ni vu ni connu, on va reprendre l'histoire, on va changer les noms et ça va le faire. Bon, ça ne l'a pas fait. Hein. Il y a eu des procès. Mais en attendant, ils ont essayé de gruger leur monde. Donc, l'agent immobilier qui est parti en Transylvanie pour vendre un château au comte Dracula s'appelle Uther. Et le comte Dracula s'appelle Orlok. C'est le moment où Uther, encore plein d'espoir, celui de faire une très bonne affaire immobilière, parce qu'il est agent et il espère faire une grosse commission en argent sur cette opération-là. Alors, il vient de s'arrêter, évidemment, dans l'auberge pour faire étape. Et quand il a dit où il allait, tout le monde lui a dit « Mais surtout pas, n'y allez pas. » Et lui, il y va quand même. Et donc, juste après ce carton, on le voit franchir ce pont en pierre. Et ce qui est extraordinaire quand on voit le film, c'est que ce pont est assez simple. C'est-à-dire que ce n'est pas un pont extraordinaire.
Voilà, tout à fait, c'est un pont. Ouais.
C'est vraiment un pont. Et il le franchit à pied, tout à fait guilleré. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, la copie est teintée, telle que le voulait Murnau. On est dans les tons jaunes. Et dès qu'il franchit le pont, on bascule dans le monde de la nuit, qui est cette fois-ci bleu nuit. Et ce qui est très intéressant... C'est ce mouvement de bascule, parce que le pont sépare le monde des vivants au monde des fantômes, du vampire, au monde de l'occulte. Mais ce que je trouve passionnant dans le film, c'est qu'une fois que ce pont est franchi, la frontière est donc franchie, mais elle est en même temps abolie. Et c'est le film entier qui devient le lieu des fantômes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le pont, il n'y a pas de non-retour. C'est un pont de non-retour. Hein, c'est pas un point de non-retour, c'est un pont de non-retour. On ne peut pas revenir sur ses pas et se dire on va revenir à la civilisation, bien tranquille, je vais retrouver ma petite femme, tout va bien aller. Non, non, c'est fini. Les forces de la nuit ont investi le monde du réel. Et c'est peut-être pour ça que le film de Murnau est tellement fascinant.
Ah oui, effectivement, il y a toute une série de ponts. J'ai compté 4 ponts en revoyant le Nosferatu de Murnau. Un premier pont qui est un pont de bois qu'on franchit en voiture dans la patache qui est mise au service par les services transylvains. Bon, tout va très bien, c'est une voiture un peu... Bon. Après, il y a le pont qu'on franchit à pied. Donc déjà, c'est une expérience solitaire initiatique. Et on sent que ce pont, effectivement, ce franchissement à pied est tout à fait particulier. Après, c'est bien évidemment le pont-levis du château du comte Dracula, qui est le troisième pont. Alors là, on rentre dans un monde définitif, un monde qui ne vous lâchera pas, et un monde effectivement non-retour. Et peut-être le pont le plus redoutable du Nosferatu de Murnau, c'est un pont tout bête, c'est la simple passerelle de bois par laquelle, quand le bateau chargé du vampire et chargé de la peste arrive dans la ville, eh bien les officiels montent, et à partir duquel avec lequel ils descendent les cercueils. Et cette espèce de passerelle de bois, sur laquelle d'ailleurs bizarrement la caméra de Murnau stationne longuement, eh bien c'est le symbole de la mort, c'est le symbole, parce que l'eau, alors c'est pas l'eau de la Seine, c'est l'eau de l'océan, c'est l'eau de la mer, l'eau est toujours un symbole morbide, puisque c'est une ville lacustre. Et donc là, dans le Nosferatu de Murnau, on a le pont initiatique et on a en même temps le pont de l'épidémie.
C'est exactement ça, et on s'arrête parce que c'est carrément le cadavre est chargé sur le pont. Là, l'image, c'est l'image elle-même qui est chargée. Et finalement, les ponts étaient tellement forts chez Nosferatu que quand Herzog fait son remake de Nosferatu, il n'ose pas mettre de pont. C'est-à-dire qu'il tourne autour de l'idée de pont, c'est-à-dire qu'on est près du ravin, on garde l'eau vive, et c'est une espèce de grotte que traverse l'agent immobilier. Et le pont, il est musical. C'est-à-dire qu'on passe de la musique originale de Popovul, écrite pour le film, à l'or du Rhin de Wagner. Et c'est à ce moment-là où on passe sur ce pont musical qu'on a compris qu'on passait la transition et qu'on arrivait chez les non-morts. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'héritage de ce pont, alors évidemment, on pourrait le chercher dans le fantastique, parce que c'est toujours cette idée de frontière, mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir que ça a contaminé des films qui n'appartiennent pas directement au régime du fantastique. Et quelqu'un qui aimait beaucoup ce film et qui était hanté par ce film, c'était Alain René. Et Alain René, dans son avant-dernier film, Vous n'avez encore rien vu, qui était déjà tout un programme, aurait voulu appeler d'ailleurs ce film « Quand ils eurent passé le pont, les fantômes vinrent à leur rencontre ». Et c'est Jean-Louis Lévy, son producteur, qui lui a dit « Écoutez Alain, je crois que comme titre, c'est un peu long, c'est un peu embarrassant ». Et Alain René, qui ne s'arrêtait pas à si peu, a introduit cette phrase en carton dans son film, alors que c'est un film parlant, souvenez-vous, hein, c'est l'histoire d'Eurydice, la mise en scène d'Anouilh, avec mise en scène dans la mise en scène. Et en fait, ce carton intervient quand les invités du protagoniste sont réunis dans une rotonde et qu'on va leur passer un film, une captation de pièces de théâtre. Et donc, ce que suggère René, c'est que les spectres sont partout, mais surtout, ils sont sur les écrans de cinéma. Et ça devient une métaphore de tout son cinéma. Et peut-être que ces films les plus drôles, comme On connaît la chanson, ou Pas sur la bouche, qu'il a toujours trouvé hanté par des spectres, eh bien ce sont les spectres du cinéma, lointains héritiers de l'expressionnisme et de Murnau, qu'il a activé, qu'il a mis en œuvre.
Fausto Fazzullo, rédacteur en chef de Mad Movies, le pont, justement, le pont de Nosferatu, est-ce qu'il a essaimé, en fait, je ne sais pas si les ponts peuvent essaimer, en tout cas, est-ce qu'il s'est prolongé dans d'autres films, ce pont initiatique?
Alors, il s'est parfois prolongé, mais il s'est prolongé de manière simplement iconique. C'est-à-dire que, effectivement, Nosferatu, c'est le film de vampire matriciel par essence. En revanche, on peut effectivement y trouver des traces de pont, mais elles n'ont jamais la signification aussi hantée, en fait, qu'on peut trouver dans le film de Murnau. C'est ce qui, justement, en fait un film tout à fait incontournable et matriciel aujourd'hui.
Et ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, Todd Browning, quand il fait Dracula 9 ans plus tard, la vraie adaptation de Bram Stoker, se dit qu'il ne peut pas mettre de pont, parce que Murnau l'a déjà fait. Donc, à la place, c'est une toile d'araignée qui va permettre de faire la frontière. La toile d'araignée, le comte passe à travers, parce qu'évidemment, il est Dracula, alors que l'agent immobilier doit, avec sa canne, déchirer la toile pour passer. Et c'est une autre image du pont, plus symbolique, parce que il n'ose pas simplement représenter le pont. L'image est trop chargée. Après Nosferatu, après Murnau.
Merci Philippe Rouillet. Donc effectivement, il y a des ponts, des ponts initiatiques dans le cinéma fantastique, puis il y a aussi des hommes ponts, des hommes qui ont été des ponts et des passerelles entre les lecteurs, les amateurs, les chercheurs et puis l'univers de l'imaginaire. Et je voulais dédier cette émission à Jacques Noël, libraire de Un regard moderne. C'est tout près d'ici, rue Gilles-Cœur, une toute petite librairie bourrée à craquer de tout ce que le mauvais genre a pu produire de meilleur. Eh bien, Jacques Noël vient de nous quitter. Je voulais lui dédier ce passage du pont de Nosferatu ce soir. Six pierres, un choix de Laurent Polleret pour nous aider à franchir les ponts, les passerelles et les viaducs de tout genre que l'on va passer notre temps à traverser ce soir dans Mauvais Genre dans le cadre de la 15e Nuit Blanche. Alors, deuxième plan qu'on a choisi, alors c'est tout à fait autre chose, ça n'est plus un pont symbolique, quoique plutôt mythique, en tout cas l'archétype du pont du film d'aventure, c'est celui de Sorcerer de William Friedkin, donc un film qui est un remake, mais qui est beaucoup plus que ça, du Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, qui est un film en définitive, qui est une grande réflexion sur le temps, sur l'histoire, et sur la manière de sortir du temps historique pour entrer dans un temps cauchemardesque, de temps mythique. De quoi s'agit-il ? Eh bien, au début de ce film de Friedkin, Sorcereur, on assiste à quatre démonstrations de la violence. Une première violence, un homme en tue un autre. On ne sait pas pourquoi, on ne saura pas pourquoi. Est-ce que c'est un crime privé ? Est-ce que c'est un crime politique ? Est-ce que c'est un crime mafieux ? La seule chose que l'on sait, c'est que ça se passe en Amérique du Sud. Première chose, une violence pure. Ensuite, eh bien, on assiste à un attentat commis par des terroristes arabes à Jérusalem. Donc là, c'est le terrorisme politique, c'est la Palestine, c'est la crise du Moyen-Orient. Troisième moments de violence qui se suivent dans le film de Friedkin, la délinquance financière, Bruno Kremer qui voit sombrer à la fois ses espoirs et sa crédibilité de banquier. Un suicide également est commis au fil de cette affaire de magouille, et bien est contraint de fuir la France. Troisième forme de criminalité, la criminalité financière. Et le quatrième, c'est un braquage mafieux d'une quête dans une paroisse de New York. Le problème, c'est que les mafieux, enfin c'est que les truands dirigés par Roy Scheider, eh bien braquent la paroisse dont le curé est le frère d'un des plus gros mafieux new-yorkais. Donc problème. Et tout tourne mal puisqu'ils sont contraints à la fuite. Il y a un accident de la route, donc tout ça. Début de ce film donc de Friedkin, Sorcereur, qui nous montre l'exemple, l'archétype sur quatre dimensions différentes de la violence historique. Et tous ces personnages, le hasard des choses, le hasard de l'histoire, veut qu'ils se retrouvent dans un minuscule village, une espèce de patelin paumé du cœur de l'Amérique du Sud. C'est une Amérique du Sud emblématique, un peu, qu'on retrouve, qui est également celle de Clouzot, une sorte de république bananière, de dictature sud-américaine, qui est tout entière basée sur un leader populiste dont on ne verra que les affiches, la tête sur les affiches. L'économie est organisée autour du pétrole, et un pétrole géré par les Américains. Et les quatre personnages donc, que je viens de citer, c'est-à-dire Amidou, qui joue le rôle du terroriste, Bruno Kremer, le rôle du financier en fuite, et Roy Scheider, le rôle du mafieux en fuite, plus un autre acteur, eh bien, se retrouvent là, un petit peu, se cachent là. Et à un moment, ils ont la possibilité, comme dans le film de Clouzot, de tenter de s'en sortir en gagnant brusquement beaucoup d'argent. Et cet argent, il faut qu'ils convoient un chargement de nitroglycérine entre le village et un site pétrolier qui vient de s'embraser. C'est le film de Clouzot. Et Friedkin donne à tout cela une dimension beaucoup plus violente. Autant Clouzot est sec, autant Friedkin est humide, il est sanglant, il est boueux, il est vaseux. Et donc, ils vont se diriger vers l'épreuve du pont. Voilà, ce que vous entendez là, qui est assez peu évocateur, mais qui est extraordinaire sur le plan de la construction d'une bande-son, imaginez une pluie tropicale absolue, comme disait l'autre, il pleut passionnément. Un fleuve totalement vaseux, boueux, un pont de singe fait visiblement avec des lianes ou des cordes usées, quelques planches qui se maintiennent péniblement sur le pont et tentent de traverser le pont un camion chargé de nitroglycérine. Donc, le climax absolu du film d'aventure. Et là, vous entendez grincer les cordes. On attend que ça pète d'une seconde à l'autre. Et puis, les personnages qui échangent dans cette espèce de tornade, qui échangent des indications et des directions. Voilà, ils finissent heureusement par traverser le pont, Philippe Rouillet, mais c'est pour aller où ?
Vous entendez la musique de Tangerine Dreams, qui est vraiment extraordinairement célèbre pour ce film. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce film, c'est un film de 1977. En 1977, il n'y a pas d'effet numérique. Et William Friedkin, le réalisateur, il vient de faire le succès absolu de L'Exorciste, qui était en 73. Il n'a rien fait entre les deux films et il se prend vraiment pour le roi du pétrole, hein, alors que c'est le roi de la nitroglycérine. Et donc, il a tenu à ce que ce pont soit un pont réel, que ce ne soit pas tourné en studio, mais réellement dans la jungle dominicaine. Et ce pont à construire a coûté $1 million. Et quand ce pont a été construit, il s'est aperçu que par un phénomène climatique que personne n'avait imaginé, la rivière en dessous était totalement asséchée. Donc il ne pouvait absolument plus tourner cette scène parce que ça n'avait aucun sens. Qu'à cela ne tienne, il a dit on démonte le pont et on le reconstruit à 1000 km de là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'entre-temps, la saison avait changé, il ne pleuvait plus et en dessous, il n'y avait plus qu'une bouillasse, effectivement. Il y avait plus, c'était plus ce flot bouillonnant de 3,50 m, mais qu'une bouillasse. Donc il a fallu détourner avec des tuyaux de l'eau des canaux voisins pour alimenter le fleuve sous le pont. Et cette pluie torrentielle dont vous parlez, François, je vous apprends qu'elle est artificielle.
Ben alors c'est, là,
c'est-à-dire qu'il a décidé, pour que ce soit encore plus fou, alors qu'il faisait un soleil fou, donc c'est le matin et le soir qu'il pouvait tourner cette séquence uniquement, parce que dans la journée, il faisait un soleil rayonnant, et le matin et le soir, il y avait des nuages, et il pouvait mettre ses pluies torrentielles. Je peux vous dire que quand vous regardez le film, vous n'imaginez pas du tout que c'est une fausse pluie. L'effet est totalement réussi, la séquence dure 12 minutes, mais elle a coûté finalement 3 millions de dollars. Mais il avait raison, Friedkin, c'est la séquence dont on se souvient avant tout du film. C'est la séquence qui est sur l'affiche du film, sur l'affiche française. Hein. Le film s'appelait à l'époque Le Convoi de la peur. Il est ressorti sous son vrai titre. La copie restaurée, vous pouvez la voir en DVD Blu-ray chez Wildside, dans une version vraiment formidable qu'on vous recommande.
Nous a rejoint Virginie Yassef, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais vous intégrer dans le débat. Parlez bien dans le micro.
Voilà.
Et franchissez bien le pont.
Merci.
Vous connaissez Le Convoi de la peur, Sorcereur de Friedkin, vous êtes...
Oui, je le connais.
Alors, réaction sur le franchissement du pont.
Ben,
signale tout de suite que vous êtes là pour nous parler d'autre chose. Mais...
Faut que je me remette dans le film. Mais je l'ai vu, en effet. Et c'est un film très très fort, très puissant. Mais je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Je pense que voilà.
Fausto Fazulo, vous-même.
Bon, c'est un film incroyable. Et c'est vrai que cette scène, c'est probablement l'une des scènes du cinéma d'action et d'aventure les plus spectaculaires de l'histoire, je crois. Et c'est vrai que ce que disait très justement Philippe, c'est de savoir qu'elle a été faite en dur. Ça rend encore plus spectaculaire la scène. Et puis, il y a peut-être une chose qui est intéressante de préciser par rapport à Sorcereur, c'est la dimension fantastique du film, puisque les camions ressemblent à des dragons, la nitroglycérine c'est un petit peu comme si c'était leur cœur de feu, et les voir essayer de franchir un pont, on a vraiment la sensation en fait d'assister à une quête initiatique fantastique, et avec aussi tout des ressorts tout à fait mystiques en fait. On a l'impression que toutes les forces telluriques et diluviennes s'abattent sur ces gens, et ça rend en fait la scène vraiment indéfinissable et quasiment inclassable, puisqu'on est vraiment au-delà du cinéma d'aventure, en fait.
D'autant plus que cette scène a cette particularité d'être un véritable sas. Dans la première partie du film, on est dans le temps de l'histoire, dans le 20e siècle, dans ce qu'il peut avoir de plus violent, de plus cruel, de plus sanglant, de plus écrasant. Et le passage de ce pont est une sorte de sas, puisqu'après, on se retrouve au point zéro de l'histoire, puisque les hommes qui continuent d'avancer avec leur camion chargé de nitroglycérine redécouvrent la technique. Il y a un arbre qui tombe en travers de la route, ils sont chargés de le dynamiter, et là, on voit ces hommes réinventer la technique, c'est-à-dire de minuscules, avec un sablier. Alors, ils remplissent un sablier, il y a une espèce de petite machine, ils construisent une machine avec des bouts de bois, de manière à faire exploser avec
bombe,
un peu de nitroglycérine.
Voilà.
Mais avec une technique extrêmement rudimentaire, on retourne véritablement à la préhistoire. Et c'est tout à fait extraordinaire. Et après, bon, ben, on passera dans une troisième temporalité qui est justement une temporalité totalement mythique, puisqu'on sort là encore plus. Roy Scheider ne sait plus où il est. Donc c'est véritablement un film qui s'organise autour du franchissement d'un pont et d'un franchissement qui est une véritable expérience mystique et métaphysique. Très étonnante et vraiment qui mène. Bah, on ne va pas raconter la fin, comme on dit.
Surtout pas.
Surtout pas, mais on ne quitte pas si facilement et si volontairement l'histoire. Virginie Yassef, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous participez à cette nuit blanche en vous intégrant dans une des grandes parades. On peut dire quelques mots.
En fait, je suis intégrée à une parade terrestre.
Alors vous, c'est la parade terrestre.
Voilà,
c'est les taupes. Est-ce que vous êtes avec les taupes?
Exactement. Elle s'intitule. Welcome to Caveland. Et en effet, elle est peuplée de taupes géantes.
Alors, on a vu les taupes avant que cette émission et que cette soirée spéciale ne commence investir le studio. Ce sont de gigantesques taupe nounours un peu, mais énorme, très inquiétante.
Ouais, ce sont des taupes qui sortent la nuit, qui sont sorties cette nuit des tunnels et des souterrains. Philippe Ken est à l'origine en fait de tout ce mécanisme là. Et les taupes là sont en train d'arriver aux Invalides. Et elles vont monter sur scène. Et accompagnée d'Orit Chrysler, qui est en fait cette musicienne de Térémine, de cet instrument. Ça va commencer là maintenant, hein, je pense.
J'aurais aimé voir les taupes grimper sur le dôme des Invalides. Ça aurait été vraiment extraordinaire. Alors vous-même, dans cette parade terrestre et non pas fluviale, quel est votre rôle et quel est votre rapport? On va voir qu'on rejoint notre inspiration mauvais genre.
Tout à fait. Alors mon intervention dans cette parade terrestre consiste à voir des personnages qui ont déambulé, mais des personnages à tête de cristaux et de minéraux. Et ces personnages un petit peu patibulaires étaient accompagnés d'un monolithe géant argenté qui flottait au-dessus du public et qui est en train lui aussi de rejoindre donc le concert de Térémine.
Alors des personnages à tête de cristaux et de minéraux. Alors pour des gens comme nous, c'est des jeux personnages soit mutants. Ils ont été touchés par un rayon interstellaire, ils ont été contaminés par une bactérie, ils ont été maudits par un sorcier. Qu'est-ce qui leur est arrivé, puisque j'ai lu que vous étiez influencé par la science-fiction?
Alors il y a une inspiration absolument évidente et directe, qui est la lecture d'un livre de J.G. Ballard, un livre d'anticipation qui s'appelle La forêt de cristal. Et dans ce livre, en fait, il est raconté une histoire où les minéraux, dont on dit souvent qu'ils sont vivants, sont en train d'envahir en fait le monde, et ainsi que les êtres humains. Donc c'est directement relié à ce scénario-là.
Alors Ballard, vous êtes une lectrice de Ballard, parce que Ballard pour nous c'est un saint, si j'ose dire, notamment avec Crash. On connaît Crash par cœur, le texte et le film, et puis effectivement toutes ces dystopies climatiques qu'il a créé autour de l'eau, de la chaleur, du froid.
Oui, la sécheresse, tout à fait. Donc c'est un grand inspirateur pour moi, Ballard.
Vous avez d'autres travaux liés à Ballard?
J'ose pas dire, non.
Non.
Pas si directement. Là, il y a vraiment une influence.
Alors, des
directe.
Personnages à tête de cristaux, racontez-nous un peu, parce qu'on a pu voir sur Internet, c'était du carton. Alors, moi, j'ai pas du carton.
le contexte était le suivant, c'est que la fabrication de ces masques a été mise en place au sein d'une école, une école préparatoire aux arts appliqués. Et ce sont donc des adolescents qui ont construit, fabriqué et pensé les masques, qui sont donc en bois et plexiglas coloré de manière à ce qu'on puisse voir à travers. Ça a l'effet de lunettes, en fait. Et les adolescents ont eux-mêmes porté leurs masques. Donc ce sont eux qui sont en train de parader.
Donc ça
là,
tient
maintenant.
Du scaphandre.
Absolument.
Et du cristal sauvage, du cristal prédateur un peu aussi, qui peut dévorer.
Mais j'étais très surprise de l'aspect scaphandre, en effet.
Fausto Fazulo, ça vous évoque certains films, ça? Des hommes et des femmes coiffés de cristaux.
Ça évoque effectivement toute une esthétique un petit peu pop sérial des années 60-70. Puis de fait de mon inclinaison naturelle pour la culture japonaise, je pense aussi aux monstres japonais qui sont effectivement issus de mutations diverses et variées et où la nature n'hésite pas à s'emparer d'un corps pour le transformer. Je pense à un film d'Ishiro Honda qui s'appelle Matango, il y a des hommes champignons géants par exemple. Enfin voilà, il y a tout ça m'évoque ceci en fait.
Il s'agit de mutations en effet et de mutants.
Et on peut les voir donc là
Là, ils sont arrivés maintenant sur le char où se déroule le concert de Doris Chrysler et des taupes géantes.
Merci Virginie Yassef, on l'applaudit.
Merci à vous. As I approach the prime of my life, I find I have the time of my life, learning to enjoy at my leisure all the simple pleasure, and so I happily concede. As I approach the prime.
écoutez France Culture, Nuit Blanche.
Thomas Baumgartner, Mathieu Conquet, François Angelier.
Alors, le pont de Nosferatu en Transylvanie, le pont de singe que franchit péniblement dans une atmosphère d'apocalypse, les routards apocalyptiques de Friedkin dans Sorcereur. Maintenant, on retourne à l'histoire du XXe siècle avec vous, Fausto Fazulo. Un autre pont, un pont de chemin de fer, comme on en voit souvent dans les romans d'aventure, dans les films d'aventure, Outrage de Brian De Palma.
C'est quasiment le pont de la rivière Kwai, en fait, puisque c'est un pont qui longe effectivement la véritable rivière Kwai en Thaïlande, puisque le film a été tourné en Thaïlande. À l'origine, en fait, Brian De Palma voulait tourner au Vietnam, mais c'était impossible pour lui de tourner là-bas, donc il a choisi la Thaïlande, donc l'Asie du Sud-Est. Juste pour recontextualiser un petit peu le film, je pense que c'est important de dire qu'à l'époque, Brian De Palma avait quasiment carte blanche pour faire ce qu'il voulait, puisqu'il sortait de Des Incorruptibles, qui est sorti en 1987, qui a été un énorme succès. Et du coup, il s'est dit, tiens, j'ai cette histoire qui me passionne, qui m'intéresse, qui est à l'origine une histoire qui a été publiée dans le New Yorker à la fin des années 60, et qui racontait comment une bande de soldats, une bande de Marines, en fait, kidnappe une jeune vietnamienne, la viole et la tue ensuite. Et il s'est trimballé en fait ce projet. Il a d'abord proposé à la Paramount, qui a refusé en disant que c'était impossible en fait d'attirer des spectateurs avec une histoire aussi violente. Et finalement, il a proposé à la Columbia, qui a pu produire le film. Alors, c'est vraiment le pont qui a différentes symboliques. C'est d'abord le pont comme étant une structure militaire. C'est un pont stratégique. C'est une position militaire que tiennent donc les Marines. Et juste en face, en fait, ils ont repéré un repère Vietcong. Et avec eux, et donc ils se trimballent entre guillemets cette jeune vietnamienne qu'ils ont kidnappée et violée. Et à ce moment-là, le chef des Marines, donc qui est incarné par Sean Penn, le commandant Meserve, exige qu'on tue cette jeune fille puisqu'elle tousse. Et si elle tousse, elle risque justement de révéler la position des Américains au Viet Cong.
C'est vrai que c'est assez extraordinaire, puisqu'ils sont en train, comme on dit, de mitrailler d'une rive à l'autre le poste Vietcong qui est installé. Et à un moment, cette jeune vietnamienne se lève. Elle a été frappée à mort puisqu'on devait la liquider. Le travail n'a pas été fait. Et donc, elle se met à déambuler comme un somnambule sur ce pont. Et elle passe au-dessus de Sean Penn qui est en train de... Et qui la regarde comme une apparition. Là, il y a un moment, mais extraordinaire.
Oui, c'est une séquence qui est extrêmement complexe si on s'intéresse à la mise en scène. Il y a énormément de points de vue, il y a beaucoup de valeurs de plan, et on se rend compte, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il la suit en fait avec un long travelling arrière assez lent en fait, et elle est plutôt cadrée serrée. Et en revanche, en fait, quand on a le contre-champ de la séquence guerrière, là, les Vietcong en fait sont assez petits, donc il y a une espèce de déshumanisation de l'ennemi et une ultra-humanisation en fait de la victime vietnamienne. Et puis, comme vous dites très justement, il y a ce passage tout à fait hallucinant où Sean Penn la regarde complètement hagard en train de passer devant lui. Et puis, il y a la fameuse thématique clé en fait chez Brian De Palma, c'est l'impuissance du héros, puisque Erickson, qui est incarné par Michael J. Fox et qui joue remarquablement bien, ne peut la sauver, et elle va finir tuée donc par les hommes de Meserve.
Mais avant, au moment où elle est poignardée, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il veut montrer Erickson qui ne peut pas regarder ça, et en même temps, elle qui est poignardée derrière. Alors normalement, au moment où le film est tourné, où là encore, il n'y a pas de numérique, c'est impossible d'avoir les deux nettes. Et du coup, il a coupé la lentille photographique en deux de Palma pour filmer sur la droite de l'écran Erickson qui est au premier plan et qui est comme tétanisé. Et la deuxième partie du cadre est focalisée sur la profondeur de champ où on voit le soldat qui est en train de poignarder la vietnamienne. Et si bien que l'arrière-plan comme l'avant-plan est complètement net. C'est une technique qu'avait utilisée Orson Welles dans Citizen Kane et Greg Toland, son chef opérateur. Mais ça donne ce côté saisissant et ça ouvre à cette mise en scène que vous citiez tout à l'heure, François et Fausto.
Outrage donc de Brian De Palma.
Voilà,
Voilà, l'arrière-plan, le pont de Brooklyn, qui se dresse comme une espèce d'Himalaya mythique de la ville de New York. Et à l'avant, une bande de galapias habillés en hommes, habillés en adultes, qui viennent visiblement de faire un bon coup, mais qui sont brusquement poursuivis par celui qu'ils ont escroqué, et tout se terminera très mal. Donc une scène extraordinaire d'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, et un des plus beaux ralentis de l'histoire du cinéma. Alors là, Fausto Fazulo, ça n'est plus un pont de singe, ça n'est plus un pont militaire, c'est un pont comme la pyramide égyptienne. C'est un mythe, c'est un emblème.
Exactement. Bah, c'est un tel emblème que le pont en fait figure sur l'affiche du film, comme le pont de Sorcerer figure aussi sur son affiche. Donc c'est une image qui est tellement puissante en fait qu'elle a dicté l'esthétique même de l'affiche. Alors cette séquence est très intéressante, elle est infiniment plus simple dans son découpage que la séquence d'outrage qui était extrêmement montée. Là on se retrouve avec une mise en scène qui est beaucoup plus lente, et sa lenteur en fait participe à l'empathie qu'on a pour le jeune Dominique. Le jeune Dominique en fait appartient à un groupe de jeunes gangsters en devenir, si je puis dire, qui ont effectivement fait un bon coup, mais malheureusement ils se sont attirés les foudres d'un gangster adulte qui s'appelle Bugsy. Donc le premier plan en fait de la séquence, on voit en plan large le groupe de jeunes gens avec le petit Dominique qui danse, qui est extrêmement content en fait d'avoir fait ce très très bon larcin.
C'est le seul à être habillé en enfant d'ailleurs.
C'est le seul à être habillé en enfant, c'est le plus jeune du groupe. C'est celui qui est le plus attachant, et c'est d'ailleurs la grande intelligence de Leone, c'est de faire fonctionner à plein régime en fait l'empathie du spectateur pour ce personnage-là, jusqu'au moment où il va passer effectivement devant le pont de Brooklyn. On a une espèce de plan de grue, un petit peu comme il y a aussi dans Il est une fois dans l'Ouest, quand on découvre la ville. Là on découvre encore un peu plus la majesté du pont, et puis plan suivant, on le voit, il entre dans un tunnel, et puis là il tombe sur Bugsy. Il s'échappe, il prévient effectivement ses comparses, et là le ralenti commence avec la sublime musique de Morricone et la flûte de Pan de Jorge Zamfir.
Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que le pont, que signifie-t-il ? C'est une sorte de... Il est saisi entre deux, dans une espèce de faille, comme ça, entre deux immeubles. Et quel est son sens ? Puisque là, on est pas, c'est pas utilitaire.
Je me suis beaucoup posé la question du sens de ce pont.
Qu'est-ce qu'il veut dire, ce pont ?
C'est le pont de Brooklyn, donc c'est le pont qui relie effectivement Brooklyn à New York. Est-ce que ce serait le pont qui pourrait permettre à ces gens de quartier, on va dire, défavorisés, d'accéder, en fait, via le gangstérisme, à une espèce de niveau de vie bien plus élevé que celui qu'ils connaissent, qui est extrêmement dur. C'est aussi un pont fantasmatique. C'est le film Testament de Sergio Leone. C'est un film qui... C'est assez intéressant puisque c'est un chef-d'œuvre, et pourtant c'est un film totalement imparfait. Mais je pense que ce pont aussi participe de l'image fantasmatique que Sergio Leone a de l'Amérique à ce moment-là, et de la façon dont il souhaite la reconstituer. Donc je pense qu'il y a un petit peu des deux.
Et il me semble aussi, Philippe, que c'est le pont du passage à l'âge adulte. Parce que vous l'avez dit, ce sont des jeunes gens, et celui qui est tué, c'est un tout petit. Mais jusqu'ici, il faisait un peu des blagues. Enfin, il faisait des vols, il faisait des rapines. Mais là, avec ce meurtre qui va toucher leur bande, ils passent dans l'âge adulte. Il ne faut pas oublier que ce passage-là est déjà dans un flashback. C'est-à-dire que c'est le héros vieillissant qui revoit son enfance. Et cette image-là, qui est une image traumatique, et c'est pour ça que c'est important que la mise en scène soit déployée à ce moment-là, que pour le spectateur, ce soit peut-être la scène iconique, la scène dont on se souvient dans le film. C'est la scène, c'est le jour où ils sont devenus adultes.
Il était une fois en Amérique de Sergio Leone.
Thank you.
Cherish de Yves Tumor, un choix donc de Laurent Polleret pour notre playlist de ce soir. La nuit blanche continue sur France Culture, 15e nuit blanche parisienne et opération spéciale. Voilà, mais la foule extrêmement présente, participative et enthousiaste, nous la saluons bien évidemment. Bonsoir Étienne Menu.
Bonsoir François.
Étienne Menu nous a rejoint, vous avez préfacé un livre qui s'appelle Hits, enquête sur la fabrique des tubes planétaires de John Seabrook. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Audimat.
Absolument.
Et vous êtes l'homme des ponts, mais pas des ponts de singes, pas des ponts initiatiques vampiriques, pas des ponts de Brooklyn, mais des ponts musicaux. On peut rappeler ce que c'est qu'un pont musical ?
Un pont musical.
Parlez sous le contrôle de Mathieu Conquet qui est là.
Oui, bon, bonsoir Mathieu. Un pont musical, en fait, c'est dans une chanson, le moment, généralement, ça arrive après le deuxième refrain. Donc on a l'intro, couplet, refrain. Et c'est pas dans toutes les chansons, hein, mais on a une sorte d'enchaînement entre le troisième, enfin entre le deuxième refrain et le troisième couplet, qui est une sorte d'arrangement, enfin qui suit un autre motif et qui amène vers une extase qui serait le troisième couplet et son troisième refrain. Voilà.
Mathieu Conquet.
Alors tout ça est bien expliqué dans le livre que vous préfacez, voilà. Étienne Menu, un livre de John Seabrook qui raconte comment ces 20 dernières années des producteurs, notamment des Suédois, ont réussi à réaliser plus de numéro 1 des charts que les Beatles eux-mêmes, grâce à des méthodes de travail développées à Stockholm. En quoi consistait cette division du travail ? En quoi c'était nouveau ?
En fait, par rapport à la Motown ou la Tin Pan Alley, qui sont les deux modèles historiques de fabrication des tubes, ces Suédois, en fait, déjà fonctionnent énormément avec la technologie. En fait, il y a assez peu d'instruments et assez peu d'instrumentistes dans le lot. Donc, il y a une forme de fragmentation, d'atomisation, en fait, de la matière de la chanson. Donc, en fait, on peut avoir une personne qui est chargée de faire l'introduction, une autre qui est chargée de faire le refrain. Il y a même des gens qui sont chargés de faire les pré-refrains, qui sont les espèces de petites montées qui stimulent particulièrement.
Et comment s'appelle quelqu'un qui fait des pré-refrains ? Un pré-refrineur ?
Pré-ingénieur. Voilà, ils n'ont pas vraiment de nom, c'est entre l'ingénieur du son et le compositeur en fait.
Il y en a dans le travail, c'est top liner. Qu'est-ce que c'est les top liners ?
Alors un top liner, en fait, ce qu'on appelle la top line, c'est une sorte de refrain, mais en fait, comme c'est des morceaux qui sont extrêmement denses, faut rappeler en fait que un des besoins de cette densité d'événements, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a constaté que un automobiliste américain donne 7 secondes à une chanson avant de zapper. Donc en fait, il faut qu'il y ait un événement sonore toutes les 7 secondes. Bon, il y en a pas toujours toutes les 7 secondes, mais il faut énormément de densité.
Il y a 7 secondes de temps de cerveau disponible en fait.
Exactement. Et donc pour ça, il faut avoir un maximum de stimulation. La top line, ça peut être une sorte de petit. En fait, la top line, c'est ce qu'on appelle plus généralement. Enfin, la top line fait partie des hooks. Les hooks, donc, sont les accroches qu'on entend tout au long d'un morceau. Rihanna, par exemple, il y a énormément de hooks. Enfin,
les interjections, les.
Voilà, les interjections, des choses qui en fait relèvent plus du pur son que du sens du mot. Et donc la top line, c'est en gros l'espèce de sur-refrain qui va permettre au morceau de s'incruster encore plus violemment dans le cerveau de l'auditeur.
Un petit exemple, parce que vraiment ces ponts, ça vous passionne. Vous me disiez que vous envisagiez d'écrire un article sur les virtuoses des ponts, notamment chez Steely Dan. Visiblement, les ponts sont très, très travaillés. Et il y a même des fanatiques, vous pouvez le trouver sur YouTube, qui font des compilations seulement des ponts. On écoute un extrait, par exemple, des ponts composés par les Neptunes.
Analyse, Étienne Menu.
Dans la musique faite par les Neptunes, notamment à cette époque-là, les Neptunes, on rappelle, c'est un duo formé de Chad Hugo et de Pharrell Williams, qui aujourd'hui est connu en solo en tant qu'artiste à proprement parler. C'est en fait dans le genre musical, un des genres principaux dans lesquels ils excellaient, le R&B, c'est particulièrement utile parce que ça permet, c'est des morceaux qui sont souvent assez langoureux et qui permettent d'ajouter une couche de langueur supplémentaire et de tension souvent érotique dans ce genre de morceaux.
Philippe Brouillet, qu'est-ce que vous pensez du pont là ?
Ah bah c'est quelque chose, hein, Williams aussi.
Il Fausto, oui.
La même chose que Philippe. Voilà, très bien. C'est quelque chose, Pharrell Williams aussi.
Monsieur Conquet, lui, il absout, il bénit. Voilà, alors si vous le permettez, Étienne Menu, on va encore rajouter une couche de sexualité, de tension et d'érotisme en plus avec, évidemment, Showgirls de Paul Verhoeven. Est-ce qu'il y a un pont, là ?
Non, il n'y a pas de pont.
Il n'y a pas de pont, zut. On décrit la scène, Philippe Brouillet, qu'est-ce qui se passe ?
Ah ben...
On est à Las Vegas.
C'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie avec Elizabeth Berkley,
oui.
Qui est l'héroïne. Et il y a une sorte de volcan. Il y a une sorte de volcan, mais manière Las Vegas. Et une créature qui sort du volcan. Et le but, évidemment... de toutes les danseuses, c'est d'être la créature qui sort du volcan. C'est de devenir la reine de du morceau à la place de la reine du morceau.
Une cratère queen. Okay, alors, Showgirls qui sort en Blu-ray DVD, qui est apparu au Grand Action. Alors, Philippe Royer.
J'ai pâté dans une version restaurée.
Allons-y.
Assez magnifique. Alors, ce que je vous racontais de ce morceau-là, c'est un peu toute l'histoire du film. C'est-à-dire que vous allez me dire, c'est l'histoire des comédies musicales, comme toujours. C'est-à-dire la petite nénette qui, au début, fait la vaisselle, fait la plonge, et qui rêve d'être en haut de l'affiche. Et le film raconte son ascension. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Paul Verhoeven, vous savez, ce formidable Hollandais violent dont on a souvent parlé à mauvais genre, réalise ce film juste après Basic Instinct et Les Jambes décroisées de Sharon Stone. Donc il est à Hollywood, il peut faire exactement ce qu'il veut, et quand il peut faire ce qu'il veut, il va toujours essayer de casser son jouet, c'est-à-dire d'aller au-delà du delà. Et donc il prend le scénariste de Basic Instinct, Joe Esteraz, et il lui dit « Fais-moi un scénario » qui va rendre compte de Las Vegas et de la vulgarité de Las Vegas. Et en fait, il n'est pas du tout content du scénario, parce que le scénario tel que je vous l'ai raconté là, il dit « Mais c'est Flashdance que tu m'as écrit !» Et moi, je veux quelque chose de beaucoup plus âpre. Il faut que tu introduises dans le film Eve de Mankiewicz, avec ce rapport de domination. Alors, si vous avez vu Eve de Mankiewicz, il y a moins de femmes nues que dans Showgirls. Ce qui est extraordinaire, c'est que... entre Esteraz et Verhoeven, il y a eu cette complicité qui a permis de créer ça. Le film, date de 1995, a été très mal accueilli à sa sortie parce que les gens trouvaient ça répugnant, clinquant, vulgaire. Or, justement, c'est ça qui est bon dans le film. C'est cette espèce de sexualité débordante, tout en pole dance. Et plus c'est vulgaire, plus c'est beau, parce que plus c'est Vegas. Et c'est ce que veut raconter Verhoeven.
Nuit blanche de Las Vegas, Fausto Fazulo.
Souvent, on a dit que c'était un film sur la décadence, mais en fait, c'est un film décadent. C'est quand même un film où le scénariste, donc Joe Esteraz, scénariste de Basic Instinct, a touché 2 millions de dollars d'avance pour écrire le script. Lui et Paul Verhoeven sont partis faire leur petite tournée à Vegas, leur repérage, on va appeler ça comme ça,
c'est habile.
Leur repérage où ils ont interviewé des stripteaseuses, tout ça, etc.
C'était
pendant des mois et des mois.
C'était pour le travail.
C'était pour le travail. Paul Verhoeven, évidemment, s'est tapé Elizabeth Berkley sur le plateau.
C'était donc pour le travail.
Donc voilà, c'est plus qu'un film sur la décadence, c'est un vrai film décadent, c'est un film félinien par ailleurs.
Céline Duchesnay, confirmée.
Oui, alors moi, première impression de ce film, tout de même, c'est une sensation d'écœurement total, écœurement par les couleurs, le dialogue, on peut parler aussi de la chorégraphie des danseuses, qui est une chorégraphie assez, évidemment, sexuelle et vulgaire. Mais ce qui m'a quand même intéressée, c'est la figure de cette femme, interprétée par Elizabeth Berkley, qui au départ est vraiment la figure de la femme hystérique et en même temps ingénue. Mais derrière l'hystérie et la femme qu'on pensait croire comme celle qui ne maîtrisait rien, on se rend compte en fait que c'est la femme femme qui contrôle tout et que c'est la femme de pouvoir et que c'est vraiment le Rastignac féminin qui vient monter dans la capitale.
Bah, hein. D'ailleurs, il y a une scène qui explique ça, c'est une scène de sexe hein, quand elle est...
Dans la piscine.
Voilà. Et en fait, elle conduit la jouissance de son partenaire.
Quitte à casser, sincèrement, quand on regarde ce film, on a l'impression que le sexe du partenaire va finir en petits morceaux dans la puissance
de
ses reins.
C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, Showgirls de Paul Verhoeven, donc disponible chez Pathé en Blu-ray et DVD, et visible à Paris au Grand Action. La Nuit Blanche Végasienne continue sur France Culture. Nous sommes en direct donc depuis les quais de la Seine, au quai de la Mégisserie, et je passe maintenant la parole à Thomas Baumgartner pour l'Ultima Supersonic.